Chapitre 23. Le manoir des Malfois. Harry jeta un coup d'œil aux deux autres. À présent, simple silhouette dans l'obscurité. Il vit Hermione pointer sa baguette, non pas vers l'extérieur, mais vers lui. Il y eut une détonation, un éclair de lumière blanche, et il se plia de douleur, soudain aveuglé. Il sentait son visage enfler rapidement sous ses doigts tandis que des bruits de pas lourds retentissaient autour de lui. « Debout, vermine !» Des mains inconnues le soulevèrent brutalement. Avant qu'il ait pu faire un geste, quelqu'un fouilla ses poches et retira la baguette de prunelier. Le visage de Harry était atrocement douloureux et sous ses doigts, ses traits devenaient méconnaissables, tirés, enflés, bouffis, comme s'il venait de subir une violente réaction allergique. Ses yeux n'étaient plus que des fentes à travers lesquelles il voyait à peine. Ses lunettes tombèrent lorsqu'on l'arracha de la tente, et tout ce qu'il pouvait distinguer, c'était les formes floues de quatre personnes qui traînaient de force Ron et Hermione à l'extérieur. « Lâchez-la !» s'écria Ron. Le bruit caractéristique d'un poing qui s'abat violemment retentit. Ron grogna de douleur et Hermione poussa un hurlement.
« Non ! Laissez-le tranquille ! Laissez-le tranquille !»«
Ton petit ami va connaître bien pire que ça, si son nom est sur ma liste !»
lança l'horrible voix rauque et familière.
« Délicieuse jeune fille, quel régal! J'aime beaucoup la douceur de la peau !»
Harry sentit son estomac chavirer. Il savait qui parlait ainsi.
Fenrir Greyback, le loup-garou, autorisé à revêtir une robe de mange-mort après avoir mis sa sauvagerie au service de ses maîtres.
« Fouillez la tente !»
dit une autre voix. Harry fut jeté à plat ventre par terre. Un bruit sourd, juste à côté, lui indiqua que Ron avait subi le même sort. Ils entendirent des pas accompagnés de bruits violents. Les mange-morts renversaient les fauteuils en fouillant l'intérieur de la tente.
Et voyons qui on a attrapé,
dit la voix jubilante de Greyback au-dessus de sa tête. Harry fut retourné sur le dos, et le rayon de lumière d'une baguette éclaira son visage. En le voyant, Greyback éclata de rire.
Il me faudrait une bonne bière au beurre pour faire passer celui-là. Qu'est-ce qui t'est arrivé, l'horrible ?
Harry ne répondit pas tout de suite.
J'ai dit qu'est-ce qui t'est arrivé ?
Répéta Greyback, et Harry reçut dans le plexus un coup violent qui le plia en deux.
Piqué, marmonna Harry. Me suis fait piquer.
Ouais, c'est ce qu'on dirait.
Lança une deuxième voix.
« Comment tu t'appelles ?»
gronda Greyback.
« Dudley, » répondit Harry.
« Et ton prénom ?»«
Vernon. Vernon Dudley. »«
Vérifie la liste, Scabior !»
ordonna Greyback. Harry l'entendit faire un pas de côté pour regarder Ron.
« Et toi, le rouquin, t'es qui ?»
Stan Rocade,
dit Ron.
Tu parles, s'exclama le dénommé Scabior. On connaît très bien Stan Rocade. Il nous a souvent donné un coup de main.
Il y eut un nouveau bruit sourd.
C'est Barney,
dit Ron, et Harry devina qu'il avait la bouche pleine de sang.
Barney, Wesley.
« Ah, Wesley !» grogna Greyback. « Tu es donc d'une famille de traîtres à leur sang, même si tu n'es pas un sang de bourbe. Maintenant, passons à ta jolie petite amie. »
La délectation qu'on sentait dans sa voix donna la chair de poule à Harry.
« Du calme, Greyback !»
lança Scabior, dominant les ricanements des autres.
« Ah, je ne vais pas la mordre tout de suite. On va voir si elle est plus rapide à se souvenir de son nom que Barney. Ah, qui es-tu, fillette ?»«
Pénélope d'Auclair, »
répondit Hermione. Sa voix était terrifiée, mais convaincante.
« Quel est ton statut du sang ?»«
Sans mêler, » dit Hermione.
« Facile à vérifier !» déclara Scabior. Mais toute cette bande a encore l'âge d'être à Poudlard.
On est Barney de l'école,
expliqua Ron. Barney de l'école? Vraiment, le rouquin? S'exclama Scabior. Et vous avez décidé d'aller camper, hein? Et puis, simplement pour rigoler, hein? Un peu, hein? Vous avez prononcé le nom du Seigneur des Ténèbres?
Bah, pour rigoler,
rectifia Ron.
Fait exprès.
Pas fait exprès? Il y eut de nouveaux ricanements.
Tu sais, qui avait l'habitude de prononcer le nom du Seigneur des Ténèbres, Wesley?
Gronda Greyback.
Les membres de l'Ordre du Phénix, ça te dit quelque chose?
Non.
Eh bien, ce sont des gens qui ne montrent pas au Seigneur des Ténèbres le respect qui lui est dû. C'est pour ça que ce nom a été frappé du tabou. Plusieurs membres de l'Ordre ont été retrouvés de cette manière. On va voir. Attachez-les avec les deux autres prisonniers.
Quelqu'un releva Harry en le tirant par les cheveux, le traîna sur quelques mètres et l'obligea à s'asseoir par terre. Puis il fut ligoté dos à dos avec d'autres personnes. Harry était toujours à demi aveuglé, parvenant à peine à voir à travers ses paupières bouffies. Lorsque l'homme, qui les avait ficelés les uns aux autres, se fut éloigné, Harry murmura « Quelqu'un a encore une baguette ?»«
Non !»
répondirent Ron et Hermione, qui étaient attachés à ses côtés. « Tout est ma faute !» C'est moi qui ai prononcé le nom, je suis désolé. Harry! C'était une nouvelle voix qu'il connaissait bien et qui venait de derrière lui. La voix d'un autre prisonnier ligoté à la gauche d'Hermione.
Dean?
C'est toi. Si jamais ils découvrent qui ils ont capturé, ce sont des rafleurs. Ils cherchent des jeunes qui font l'école buissonnière pour les échanger contre un peu d'or.
« Bonne récolte pour une seule soirée !»
dit Greyback. Une paire de bottes cloutées s'avança tout près de Harry et ils entendirent d'autres bruits d'objets renversés à l'intérieur de la tente.
« Un sang de bourbe, un gobelin en fuite et trois élèves échappés de l'école. « Tu as vérifié leur nom sur la liste ? Scabior !»
rugit-il.
« Ouais, il n'y a aucun Vernon Dudley.
Intéressant, commenta Greyback. Très intéressant.
Il s'accroupit à côté de Harry, qui vit, à travers les deux fentes minuscules séparant ses paupières enflées, une tête recouverte de cheveux et de favoris gris, emmêlés avec une bouche aux dents pointues, des ulcères au coin des lèvres. Greyback avait la même odeur que lorsqu'il s'était trouvé au sommet de la tour où Dumbledore était mort. Une odeur de boue, de sueur et de sang.
Alors, tu n'es pas recherché, Vernon? Ou bien tu figures sur la liste sous un autre nom? Tu étais dans quelle maison à Poudlard?
Serpentard, répondit machinalement Harry.
C'est marrant! Ils croient tous que c'est ça qu'on veut entendre,
lança dans l'ombre la voix railleuse de Scabior.
Sauf qu'il n'y en a pas un seul qui sait où est la salle commune.
Elle se trouve dans les cachots, dit Harry d'une voix assurée. On y entre en traversant le mur. Elle est pleine de crânes et de choses comme ça, et elle est sous le lac, si bien que la lumière y est toujours verte. Il y eut un bref silence.
« Tiens, on dirait qu'on a vraiment attrapé un petit serpentard !» s'étonna Scabior. « C'est une bonne chose pour toi, Vernon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sang de bourbe à Serpentard. Et qui est ton père ?»«
Il travaille au ministère, » mentit Harry. Il savait que son histoire ne résisterait pas à la moindre investigation, mais de toute façon, ce petit jeu ne pouvait durer que jusqu'au moment où il retrouverait son visage normal.
« Au département des accidents et catastrophes magiques, » précisa-t-il.
« Tu sais quoi, Greyback ?» dit Scabior. « Je crois bien qu'il y a un Dudley là-bas. »
Harry avait du mal à respirer. La chance, la simple chance, allait-elle les sauver ?
Je vois,
marmonna Greybac. Harry perçut une infime nuance d'inquiétude dans sa voix grossière, et il devina que Greybac se demandait s'il n'avait pas attaqué et ligoté le fils d'un officiel du ministère. Harry sentit son cœur tambouriner contre les cordes serrées autour de ses côtes. Il n'aurait pas été surpris que Greybac lui-même puisse percevoir ses battements.
Si tu dis la vérité, l'horrible, tu n'as rien à craindre d'un petit voyage au ministère, hein ? Je pense que ton père nous récompensera pour t'avoir retrouvé.
Mais, répondit Harry la bouche sèche, si vous nous laissiez simplement...
Hey ! S'écria une voix à l'intérieur de la tente. Regardez ça, Greybac !
Une silhouette sombre se précipita vers eux, et Harry aperçut un reflet argenté à la lumière de leur baguette. Ils avaient trouvé l'épée de Gryffondor.
Magnifique ! S'exclama Greybac d'un ton appréciateur en la prenant des mains de son compagnon. Vraiment magnifique ! On dirait un travail de gobelin. Et où as-tu trouvé ça ?
C'est à mon père ! Mentit Harry, avec l'espoir déraisonnable qu'il fasse trop noir pour que Greybac puisse distinguer le nom gravé sous la garde.
On l'a emprunté pour couper du bois.
T'as un peu, Greybac ! T'as vu ça dans la gazette ?
Au moment même où Scabior prononçait ces mots, la cicatrice de Harry tendue sur son front déformé le brûla sauvagement. Il vit alors, plus nettement que tout ce qui l'entourait, un édifice imposant, telle une forteresse lugubre, menaçante, aux murailles d'un noir de jais. Les pensées de Voldemort étaient soudain redevenues d'une clarté tranchante. Il s'avançait de son pas souple en direction du gigantesque bâtiment avec une détermination sereine, euphorique.
« Si proche ! Si proche !»
Dans un considérable effort de volonté, Harry ferma son esprit à celui de Voldemort, s'obligeant à revenir à la réalité, ligoté dans l'obscurité, à Ron, Hermione, Dean et Gripsek, écoutant ce que disaient Greybac et Scabior.
« Hermione Grangère, lisait Scabior, la sainte bourbe qui voyage avec Harry Potter !»
La cicatrice de Harry s'enflamma dans le silence qui suivit, mais il se concentra de toutes ses forces pour rester présent et ne pas se laisser entraîner dans la tête de Voldemort. Il entendit le grincement des bottes de Greybac qui s'accroupit cette fois devant Hermione.
« Tu sais quoi, fillette ? Cette photo te ressemble beaucoup. »«
Pas du tout ! Ce n'est pas moi !»
Le couinement terrifié d'Hermione avait valeur d'aveu.
Qui voyage avec Harry Potter,
répéta Greybac à mi-voix. Une totale immobilité sembla s'abattre sur eux. La cicatrice de Harry était devenue éminemment douloureuse, mais il luttait de toutes ses forces contre l'attraction des pensées de Voldemort. Il n'avait jamais été aussi important pour lui de garder sa présence d'esprit.
« Voilà qui change tout, n'est-ce pas ? »
murmura Greybac. Personne ne dit un mot. Harry sentait peser le regard des rafleurs figés sur place et le bras d'Hermione trembla contre le sien. Greybac se leva alors et fit deux pas en direction de Harry, s'accroupissant à nouveau pour observer ses traits difformes.
« Et qu'est-ce que c'est que ça, sur ton front, Vernon ?»
demanda-t-il d'une voix douce. Harry sentit son haleine fétide tandis qu'il appuyait un doigt crasseux sur la cicatrice tendue au maximum.
« N'y touchez pas !»
hurla Harry. Il n'avait pu s'en empêcher. La douleur était telle qu'il se demandait s'il n'allait pas vomir.
« Je croyais que tu portais des lunettes, Potter !»
dit Greybac dans un souffle.
« J'ai justement trouvé des lunettes !»
glapit l'un des rafleurs qui rôdait dans l'obscurité.
« Il y en avait une paire dans la tente, Greybac, attends !»
Quelques secondes plus tard, les lunettes de Harry lui avaient été collées sur le nez. Les rafleurs se rapprochaient de lui à présent, le fixant des yeux.
C'est lui !»
s'exclama Greyback de sa voix rauque.
On a attrapé Potter !»
Ils reculèrent tous de plusieurs pas, abasourdis par ce qu'ils avaient fait. Harry, luttant toujours pour rester présent dans sa propre tête, horriblement douloureuse, ne trouvant rien à répondre, des visions fragmentaires émergeaient dans son esprit. Il contournait les hautes murailles de la forteresse noire. Non, il était Harry, ligoté sans baguette, confronté à un danger très grave. Levant les yeux vers la plus haute fenêtre, la plus haute tour, il était Harry et il discutait de son sort à voix basse, le moment de prendre son vol.
Au ministère !
Au diable le ministère !
Grogna Greyback.
Ils s'attribueront tout le mérite et nous, on nous oubliera. Moi, je dis qu'il faut l'amener directement à vous savez qui.
Tu vas le faire venir ici ?
S'écria Scabior, impressionné, terrifié même.
Non, gronda Greyback, je n'ai pas. On dit qu'il se sert de la maison des Malfoy comme base. On va emmener le garçon là-bas.
Harry crut savoir pourquoi Greyback ne voulait pas appeler Voldemort. Le loup-garou était peut-être autorisé à revêtir une robe de mange-mort quand on avait besoin de lui, mais seuls les membres du cercle intime de Voldemort portaient la marque des ténèbres. Greyback n'avait pas reçu cet ultime honneur. La cicatrice de Harry s'enflamma à nouveau. Il s'élevait dans la nuit, volant droit vers la fenêtre située tout en haut de la tour.
Ah, « absolument sûr que c'est lui ? Parce que sinon, Greyback, on est mort !»«
Qui commande ici ?»
rugit le loup-garou, pour faire oublier le moment où s'était révélée son insuffisance.
« Je vous dis que c'est Potter, et lui, plus sa baguette. Ça vaut 200 000 galions, payés rubis sur l'angle. Mais s'il y en a parmi vous qui ont peur de m'accompagner, je garderai tout pour moi. Et avec un peu de chance, j'aurai même la fille en prime. »
La fenêtre n'était qu'une simple fente dans la roche noire, pas assez large pour permettre le passage d'un homme. Une silhouette squelettique était tout juste visible au travers, recroquevillée sous une couverture, morte ou endormie.
« D'accord, » dit Scabior, « d'accord, on est avec toi. Et les autres, Greyback, qu'est-ce qu'on en fait ?»«
On n'a qu'à emmener tout le monde. On a 200 de bourbe. Ça fait encore 10 galions. Donne-moi aussi l'épée, si ce sont des rubis. » Il y a une autre petite fortune là-dedans.
Ils relevèrent les prisonniers de force. Harry entendait la respiration d'Hermione précipitée, terrifiée.
Tenez-les bien surtout, hein. Moi je m'occupe de Potter.
Lança Greyback en saisissant une poignée de cheveux de Harry. Celui-ci sentit les ongles jaunes lui racler la peau du crâne.
Et alors, à trois. Un, deux.
Ils transplanèrent, entraînant les prisonniers avec eux. Harry se débattit, essaya de se dégager de la main de Greyback, mais c'était sans espoir. De chaque côté, Ron et Hermione étaient étroitement serrés contre lui. Il ne pouvait se séparer du groupe. Ses poumons se vidèrent et sa cicatrice le brûla avec encore plus d'intensité. Il se faufilait à travers l'ouverture de la fenêtre, à la manière d'un serpent, et sautait à l'intérieur de la cellule avec la légèreté d'un nuage de vapeur. Les prisonniers atterrirent sur une route de campagne en titubant les uns contre les autres. Les yeux de Harry, toujours bouffis, mirent un certain temps à s'adapter, et il vit alors un portail de fer forgé au début d'une longue allée. Il éprouva un infime soulagement. Le pire n'était pas encore arrivé. Voldemort n'était pas là. Harry savait, car il luttait de toutes ses forces contre cette vision, qu'il se trouvait dans un lieu étrange, une sorte de forteresse, et qu'il était monté au sommet d'une tour. Combien de temps Voldemort mettrait-il à arriver jusqu'ici, une fois qu'on l'aurait informé de la présence de Harry ? C'était une autre question.
L'un des rafleurs s'avança vers le portail et secoua les deux battants.
« Comment on fait pour entrer? C'est fermé à clé, Greyback, j'arrive pas!
Oh non, non, non !»
Pris de peur, il lâcha le portail. Le fer forgé se déformait, se tordait. Les motifs abstraits de ses volutes et de ses torsades se métamorphosant en un visage effrayant qui parla d'une voix métallique vibrante.
« Annoncez l'objet de votre visite.
On amène Potter !»
rugit Greyback d'une voix triomphante.
« On a capturé Harry Potter !»
Les battants du portail pivotèrent, ouvrant le passage.
« Venez !»
dit Greyback à ses hommes. Les prisonniers furent poussés en avant le long de l'allée entre deux hautes haies qui étouffaient leurs pas. Harry aperçut au-dessus de lui une forme blanche, fantomatique, et se rendit compte qu'il s'agissait d'un paon albinos. Il trébucha. Greyback le releva de force. Harry avançait à présent de côté, d'un pas chancelant, ligoté dos à dos aux quatre autres prisonniers, fermant ses yeux aux paupières bouffies. Il laissa la douleur de sa cicatrice le submerger. Il voulait savoir ce que faisait Voldemort, s'il savait que Harry avait été capturé. La silhouette émaciée remuait sous sa fine couverture et se retournait vers lui. Ses paupières s'ouvrant, son visage semblable à une tête de mort. L'homme gracile se redressait, fixant sur lui, sur Voldemort, ses grands yeux enfoncés dans leurs orbites. Puis il souriait. Il n'avait presque plus de dents.
« Vous voici donc. Je me doutais que vous viendriez un jour. Mais votre voyage aura été vain. Je ne l'ai jamais eu. »«
Tu mens !»
Tandis que la colère de Voldemort palpitait en lui, la cicatrice de Harry lui fit si mal qu'elle sembla sur le point de s'ouvrir, et il s'arracha à cette vision, ramenant son esprit dans son propre corps, luttant pour rester présent sur l'allée de gravier où l'on traînait les prisonniers. Un flot de lumière ruissela sur eux.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda la voix glacée d'une femme.
« Nous sommes venus voir celui dont on ne doit pas prononcer le nom !»
répondit Greyback de sa voix râpeuse.
« Qui êtes-vous ? » ?»«
Vous me connaissez !»
Il y avait une certaine amertume dans le ton du loup-garou.
« Fenrir, Greyback ! Nous avons capturé Harry Potter !»
Greyback empoigna Harry et le fit tourner de force pour le placer face à la lumière, obligeant les autres prisonniers à accompagner le mouvement.
« Je sais qu'il a la tête enflée, madame, mais c'est lui !»
intervint Scabior.
« Si vous y regardez de plus près, vous verrez sa cicatrice. Et là, cette fille, vous la voyez? C'est la Sandbourbe qui voyageait avec lui. Il n'y a pas de doute, c'est bien lui. Et on a sa baguette aussi. Tenez, madame. »
Harry vit Narcissa Malfoy scruter son visage bouffi. Scabior lui mit la baguette de prunelier sous le nez. Elle haussa les sourcils.
« Emmenez-les à l'intérieur !»
dit-elle. Poussés à coups de pied, Harry et les autres montèrent de larges marches qui menaient dans un hall où une série de portraits s'alignaient sur les murs.
« Suivez-moi !»
ordonna Narcissa en les conduisant de l'autre côté du hall.
« Drago, mon fils, est là pour les vacances de Pâques. Si c'est vraiment Harry Potter, il le reconnaîtra. »
La lumière du salon était éblouissante après l'obscurité du parc. Même avec ses yeux presque fermés, Harry parvenait à distinguer les vastes proportions de la pièce. Un lustre en cristal était suspendu au plafond et d'autres portraits ornaient les murs d'une couleur violet foncé. Lorsque les rafleurs poussèrent les prisonniers à l'intérieur, deux silhouettes assises devant une cheminée de marbre sculpté se levèrent de leur fauteuil.
« Qu'est-ce que c'est ?»
La voix traînante, horriblement familière de Lucius Malfoy, retentit aux oreilles de Harry. La panique le gagnait. Il ne voyait plus d'issue, et, à mesure que la peur montait en lui,
il éprouvait moins de difficultés à se fermer aux pensées de Voldemort, bien que sa cicatrice fût toujours aussi brûlante.
« Ils prétendent avoir capturé Potter !»
dit Narcissa de sa voix glacée.
« Drago, viens là !»
Harry n'osa pas regarder directement Drago, mais il le vit de côté. Une silhouette légèrement plus grande que lui se levant d'un fauteuil, un visage flou, pâle et pointu, sous des cheveux d'un blond presque blanc. Et Greyback força à nouveau les prisonniers à se tourner pour que la lumière du lustre éclaire directement Harry.
« Alors, mon garçon !» dit le loup-garou de sa voix âpre.
Harry était face au miroir qui surmontait la cheminée dans un cadre doré aux moulures contournées. À travers la fente de ses paupières, il aperçut son reflet pour la première fois depuis qu'il avait quitté le square Grimoire. Son visage était devenu énorme, rose et luisant, chacun de ses traits déformés par le maléfice d'Hermione. Ses cheveux noirs lui tombaient jusqu'aux épaules et une ombre entourait sa mâchoire. S'il n'avait pas su que c'était lui qui se tenait là, il se serait demandé qui portait ses lunettes. Il décida de rester silencieux car sa voix le trahirait et continua d'éviter tout contact visuel avec Drago lorsque celui-ci s'approcha de lui.
« Eh bien, Drago ?»
demanda Lucius Malfoy. Il semblait avide de savoir.
« C'est lui ?» « C'est Harry Potter ?»«
Je n'en suis pas sûr, » dit Drago.
Il se tenait à bonne distance de Greyback et paraissait avoir aussi peur de poser les yeux sur Harry que Harry craignait de croiser son regard.
« Examine-le attentivement. Rapproche-toi !»
Harry n'avait jamais entendu Lucius Malfoy parler avec une telle fébrilité.
« Drago, si nous livrons Potter au Seigneur des Ténèbres, tout sera pardonné. »«
Allons, j'espère que nous n'allons pas oublier qui l'a vraiment capturé, Monsieur Malfoy !»
l'interrompit Greyback d'un ton menaçant.
« Bien sûr que non, bien sûr que non !» s'exclama Lucius agacé. Il s'avança lui-même vers Harry, si près que celui-ci, en dépit de ses yeux gonflés, vit dans tous ses détails son visage blafard, d'ordinaire indolent. Avec ses bouts fissures qui formaient comme un masque, Harry avait l'impression de regarder entre les barreaux d'une cage.
« Que lui avez-vous fait ?» demanda Lucius à Greyback. « Pourquoi se trouve-t-il dans cet état ?»«
C'est pas nous. »«
À mon avis, on lui a jeté un maléfice cuisant. » dit Lucius.
Ses yeux gris se fixèrent sur le front de Harry.
« Il y a quelque chose là, » murmura-t-il. « Ce pourrait être la cicatrice, très étirée. Dragon, viens là, regarde bien. Qu'est-ce que tu en penses ?»
Harry voyait de près le visage de Drago à présent, juste à côté de celui de son père. Ils étaient extraordinairement semblables, mais alors que son père était manifestement surexcité, Drago paraissait très réticent, effrayé même.
« Je ne sais pas, »
dit-il. Et il retourna vers la cheminée devant laquelle sa mère debout l'observait.
« Il vaudrait mieux être certain, Lucius, »
lança-t-elle à son mari, de sa voix claire et glacée.
« Absolument certain qu'il s'agit bien de Potter avant d'appeler le Seigneur des Ténèbres. » « Ces gens affirment que c'est la sienne !»
ajouta-t-elle en examinant la baguette de prunelier.
« Mais elle ne ressemble pas à la description d'Ollivander. Si nous nous trompons, si nous appelons pour rien le Seigneur des Ténèbres, tu te souviens de ce qu'il a fait à Rôle et à Dolof ?»«
Et il a sang de bourbe alors !»
grogna Greyback. Harry faillit tomber lorsque les rafleurs forcèrent les prisonniers à pivoter à nouveau pour que la lumière du lustre éclaire cette fois Hermione.
« Attendez !»
dit brusquement Narcissa.
« Oui, ah oui, elle, oui, elle était dans la boutique de Madame Guipure, avec Potter. J'ai vu sa photo dans la gazette. Regarde, Drago, n'est-ce pas cette dénommée Granger ?»«
Peut-être. »
« Dans ce cas, celui-là est le jeune Wesley !» s'écria Lucius, en contournant les prisonniers pour voir Ron en face.
Ce sont eux. Ce sont les amis de Potter. Drago, regarde-le, c'est bien le fils d'Arthur Weasley. Comment s'appelle-t-il déjà ?
Ah oui, oui, répéta Drago le dos tourné au prisonnier. C'est possible, oui.
La porte du salon s'ouvrit derrière Harry. Une femme parla, et au son de sa voix, la peur de Harry monta encore d'un cran.
« Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Si ? »
Bellatrix Lestrange tourna lentement autour des prisonniers et s'arrêta à la droite de Harry, dévisageant Hermione sous ses lourdes paupières.
« Ma parole ! » dit-elle à mi-voix. « C'est la sang de Bourbe ! C'est Granger ! » !»«
Oui, oui, c'est Granger !» s'exclama Lucius. « Et à côté d'elle, on pense que c'est Potter. Potter et ses amis, enfin capturés !»«
Potter !» s'écria Bellatrix, d'une voix perçante. Elle recula d'un pas pour mieux examiner Harry.
« Vous êtes sûr ? Dans ce cas, le Seigneur des Ténèbres doit en être immédiatement informé !»
Elle remonta sa manche gauche. Harry vit la marque des ténèbres imprimée au fer rouge dans la chair de son bras et il sut qu'elle s'apprêtait à la toucher, à faire venir auprès d'elle son maître bien-aimé.
« J'étais sur le point de l'appeler !» s'exclama Lucius.
Sa main se referma sur le poignet de Bellatrix, l'empêchant de toucher la marque.
« Je vais m'en occuper moi-même, Bella. Potter a été amené dans ma maison. » Il est donc placé sous mon autorité.
« Ton autorité !»
répliqua-t-elle avec un mépris en essayant de dégager son bras.
« Tu as perdu toute autorité quand tu as perdu ta baguette, Lucius. Comment oses-tu ? Lâche-moi ! Tu n'as rien à voir là-dedans. Ce n'est pas toi qui l'as capturé.
Je vous demande pardon, monsieur Malfoy, intervint Greyback, mais c'est nous qui avons attrapé Potter et c'est nous qui allons réclamer l'or.
L'or ?
S'esclaffa Bellatrix, qui s'efforçait toujours de libérer son poignet, sa main libre tâtonnant dans sa poche pour attraper sa baguette.
Prends donc ton or, immonde charognard ! Qu'ai-je à faire d'un peu d'or ? Je ne cherche que l'honneur de ça, de... »
Elle cessa de se débattre, son regard sombre fixé sur quelque chose que Harry ne pouvait voir. Ravi de l'avoir capitulé, Lucius lui lâcha la main et remonta brutalement sa propre manche.
« Arrête !»
hurla Bellatrix.
« N'y touche pas ! Nous allons tous périr si le Seigneur des Ténèbres arrive maintenant !»
Lucius se figea, l'index suspendu au-dessus de sa propre marque. Bellatrix sortit du champ de vision limité de Harry.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Dit-elle.
Une épée !
Grogna un rafleur que Harry ne pouvait voir.
Donne-la-moi !
C'est pas à vous, madame. C'est à moi. C'est moi qui l'ai trouvée.
Une détonation retentit, accompagnée d'un éclair de lumière rouge. Harry comprit que le rafleur venait d'être stupéfixé. Ses camarades poussèrent un rugissement de fureur. Scabior tira sa baguette.
« À quoi vous jouez, ma petite dame ?»«
Stupéfix !»
hurla-t-elle.
« Stupéfix !»
Il n'était pas de taille à lui résister, même à 4-1. Harry était bien placé pour savoir que c'était une sorcière aux dons prodigieux et complètement dépourvue de conscience. Les rafleurs étaient tombés tous, sauf Greyback, forcé à se mettre à genoux, les bras tendus. Du coin de l'œil, Harry vit Bellatrix s'avancer d'un pas menaçant sur le loup-garou. Le visage cireux, elle tenait fermement dans la main l'épée de Griffon d'or.
« Où as-tu pris cette épée ? »
murmura-t-elle à Greyback en lui arrachant sa baguette sans qu'il puisse opposer de résistance.
« Comment osez-vous ? »
gronda-t-il, sa bouche restant la seule partie de son corps encore mobile. Sa position agenouillée l'obligeait à lever les yeux vers elle. Il retroussa ses lèvres sur ses dents pointues.
« Relâchez-moi, ma petite dame !»«
Où as-tu trouvé cette épée ? »
répéta-t-elle en la brandissant sous son nez.
« Rogue l'avait fait mettre dans ma chambre forte, à Gringotts !»
Elle était dans leur tente !» répliqua Greyback de sa voix râpeuse. Je vous ai dit de me relâcher. »
Elle donna un petit coup de baguette et le loup-garou se releva d'un bond, mais il semblait trop méfiant pour s'approcher d'elle. Il alla se réfugier derrière un fauteuil, ses ongles crasseux et recourbés s'enfonçant dans le dossier.
« Drago, fiche-moi cette vermine dehors !»
lança Bellatrix en indiquant les compagnons inconscients de Greyback.
« Si tu n'as pas assez de courage pour les achever, laisse-les-moi dans le jardin !»«
Ne parle pas à Drago sur ce... »
protesta Narcissa furieuse, mais Bellatrix l'interrompit.
« Tais-toi !»
s'écria-t'elle.
« La situation est plus grave que tu ne peux l'imaginer, Sissi. Nous avons un problème très sérieux !»
Haletant légèrement, elle resta debout à contempler l'épée, examinant sa poignée. Puis elle se tourna vers les prisonniers silencieux.
« Si c'est vraiment Potter, il ne faut lui faire aucun mal !»
marmonna-t-elle, plus pour elle que pour les autres.
« Le Seigneur des Ténèbres souhaite s'en débarrasser lui-même, mais s'il découvre... Il faut que je sache.
Elle regarda à nouveau sa sœur.
Les prisonniers doivent être enfermés dans la cave pendant que je réfléchis à la façon dont il convient d'agir. Nous sommes dans ma maison, Bella. Tu n'as pas d'ordre à donner dans ma... Faites ce que je vous dis! Vous n'avez aucune idée du danger que nous courons,
hurla Bellatrix. Elle était effrayante, comme folle. Un mince jet de feu jaillit de sa baguette et brûla le tapis en y laissant un trou. Narcissa hésita un instant, puis s'adressa au loup-garou.
« Emmenez ces prisonniers à la cave, Greyback !»«
Attends !»
coupa sèchement Bellatrix.
« Tous, sauf la Sandebourbe !»
Greyback émit un grognement de plaisir.
« Non !» s'écria Ron. « Prenez-moi à sa place. Gardez-moi si vous voulez. »
Bellatrix le frappa en plein visage. Le coup résonna dans la pièce.
« Si elle meurt pendant l'interrogatoire, c'est de toi que je m'occuperai tout de suite après, » dit-elle. « Sur ma liste, les traites à leur sang viennent juste après les Sainte-Bourbe. Emmène-les au sous-sol, Greyback, et enferme-les bien. Mais ne leur fais rien d'autre. Pas encore !»
Elle jeta sa baguette à Greyback et sortit de sous sa robe un petit poignard d'argent. Elle détacha Hermione des autres prisonniers, puis la tira par les cheveux jusqu'au centre de la pièce, pendant que Greyback obligeait les autres à franchir d'un pas traînant une deuxième porte qui ouvrait sur un couloir obscur. Sa baguette tendue devant lui projetait une force invisible et irrésistible.
« Tu crois qu'elle me laissera un morceau de la fille quand elle en aura fini avec elle ?»
susurra Greyback.
« J'en mangerai bien une ou deux bouchées, pas toi, le rouquin !»
Harry sentait Ron trembler. Ils furent poussés dans un escalier raide et étroit, toujours attachés dos à dos. Ils risquaient à tout moment de glisser sur les marches et de se rompre le cou. En bas, se trouvait une lourde porte. Greyback la déverrouilla d'un geste de sa baguette, puis les propulsa dans un espace humide, à l'odeur de moisie, et les y abandonna dans une totale obscurité. Le bruit de la porte qu'il claqua sur eux résonnait encore lorsqu'un cri terrible et prolongé retentit jusqu'au-dessus de leur tête.
« Hermione !»
hurla Ron. Il se mit à se tortiller, à se débattre pour essayer de se dégager des cordes qui les ligotaient, et Harry vacilla.
« Hermione !»«
Silence !» dit Harry. « Tais-toi, Ron !»« Il faut que nous trouvions un moyen de... »«
Hermione ! Hermione !»«
Nous avons besoin d'un plan ! Arrête de hurler ! Nous devons nous libérer de ces cordes !»«
Harry ?» murmura alors une voix dans le noir. « Harry, Ron, c'est vous ?»
Ron cessa de crier. Ils entendirent bouger tout près d'eux et Harry distingua une ombre qui s'approchait.
« Harry ? Ron ?
Luna ?
Oui, c'est moi. Oh, je ne voulais surtout pas qu'il vous attrape. »«
Luna, tu peux nous aider à nous débarrasser de ces cordes ?» demanda Harry.
« Oh oui, oui, ça devrait être possible. Il y a un vieux clou dont on se sert quand on a besoin de casser quelque chose. » « Attends un peu. »
Hermione hurla à nouveau au-dessus d'eux et Bellatrix cria à son tour. Mais ses paroles restèrent inaudibles car Ron avait recommencé à beugler.
« Hermione ! Hermione !»
Harry entendit Luna dire
« Monsieur Ollivander, Monsieur Ollivander, avez-vous le clou ? Si vous pouviez vous déplacer juste un peu, je crois qu'il était à côté de la cruche d'eau. »
Elle revint quelques secondes plus tard.
« Ne bougez pas !»
murmura-t'elle. Harry la sentit enfoncer le clou dans les fibres épaisses de la corde pour défaire les nœuds. En haut, la voix de Bellatrix retentit une nouvelle fois.
« Je repose la question ! Où avez-vous eu cette épée ? Où ?
Nous l'avons trouvée ! Nous l'avons trouvée ! S'il vous plaît !»
hurla Hermione. Ron se débattit avec plus de force que jamais et le clou rouillé glissa sur le poignet de Harry.
« Ron, s'il te plaît, tiens-toi tranquille, »
chuchota Luna.
« Je n'arrive pas à voir ce que je fais. »«
Ma poche, » dit Ron, dans ma poche. Il y a un déluminateur. Il est plein de lumière. »
Quelques secondes plus tard, il y eut un déclic et les sphères lumineuses que le déluminateur avait aspirées à l'intérieur des lampes allumées sous la tente jaillirent dans la cave. Comme il leur était impossible de rejoindre leur source, elles restèrent suspendues à la manière de petits soleils qui inondèrent la pièce de leur clarté. Harry vit Luna, ses yeux grands ouverts dans son visage blanc, et la silhouette immobile d'Ollivander, le fabricant de baguettes recroquevillé par terre dans un coin. Tendant le cou, il aperçut les autres prisonniers. Dean et Gripsek, le gobelin qui paraissait à peine conscient et ne tenait plus debout que par les cordes qu'il attachait aux humains.
« Oh, c'est beaucoup plus facile comme ça. Merci, Ron, »
dit Luna, qui s'attaqua à nouveau à leur lien.
« Bonjour, Dean. »
La voix de Bellatrix leur parvint encore une fois.
Tu mens, immonde petite sang de bourbe! Et je le sais! Vous avez pénétré dans ma chambre forte, à Gringotts! Dis-moi la vérité! Dis-moi la vérité!
Nouveau cri terrible.
Hermione!
Qu'est-ce que vous avez pris d'autre? Qu'est-ce que vous avez emporté? Dis-moi la vérité, ou je te jure que je te transperce avec ce poignard!
Et voilà.
Harry sentit les cordes tomber et se retourna en se massant les poignets. Il vit Ron qui courait tout autour de la cave, les yeux levés vers le plafond bas à la recherche d'une trappe. Dean, le visage tuméfié, ensanglanté, murmura merci à l'adresse de Luna et resta là, debout, frissonnant. Gripsek, lui, s'effondra sur le sol de la cave, l'air hagard, désorienté, son visage basané couvert de traces de coups. Ron essayait à présent de transplaner sans baguette.
Il n'y a pas moyen de sortir, Ron,
l'avertit Luna, qui observait ses vains efforts.
On ne peut pas s'évader de cette cave. Moi aussi j'ai essayé au début, et Monsieur Ollivander, qui est là depuis très longtemps, a tout tenté.
Hermione avait recommencé à hurler. Le son de ses cris traversait Harry comme une douleur physique. À peine conscient de l'intense brûlure de sa cicatrice, lui aussi se mit à courir tout autour de la cave, tâtant les murs, en quête d'il ne savait quoi, conscient au fond de lui-même que c'était inutile.
« Qu'avez-vous pris d'autre ? Quoi d'autre ? Réponds-moi, Undaloris ! »
L'écho des hurlements d'Hermione résonna d'un bout à l'autre du rez-de-chaussée. Ron, sanglotante à moitié, martelait les murs de ses poings. En désespoir de cause, Harry saisit la bourse de Hagrid qu'il portait toujours autour du cou et fouilla à l'intérieur. Il en retira le vif d'or qu'il agita, espérant que quelque chose, il ignorait quoi, se produirait. Mais il ne se passa rien du tout. Il brandit les deux morceaux brisés de la baguette à plumes de phénix, mais ils restèrent sans vie. Le fragment de miroir tomba alors sur le sol et il vit briller un reflet bleu vif. Dans le miroir, l'œil de Dumbledore le regardait.
« Aidez-nous !»
hurla-t-il, fou de désespoir. « Nous sommes dans la cave du manoir de Malfoy. Aidez-nous »
L'œil cligna et disparut. Harry n'était même pas sûr qu'il ait vraiment été là. Il tourna le fragment de miroir dans un sens, puis dans l'autre, mais n'y vit que le reflet des murs et du plafond de leur prison. Là-haut, Hermione poussa des cris de plus en plus déchirants, et Ron, à côté de lui, continuait de beugler.
« Hermione, Hermione! Comment êtes-vous entré dans ma chambre forte ?» s'exclama Bellatrix. « Est-ce que ce sale petit gobelin, enfermé dans la cave, vous a aidé ?»«
On l'a vu pour la première fois ce soir !» sanglota Hermione. « Nous ne sommes jamais allés dans votre chambre forte. Ce n'est pas la vraie épée. C'est une copie, une simple copie. »«
Une copie ?»
hurla Bellatrix d'un ton perçant.
« Comme c'est vraisemblable !»«
Il est facile de le savoir !» intervint la voix de Lucius Malfoy. « Mago, va chercher le gobelin. Il pourra nous dire si l'épée est vraie ou pas. »
Harry se roua vers l'endroit où Gripsec s'était effondré. « Gripsec !» murmura-t-il à l'oreille pointue du gobelin. « Il faut absolument leur dire que cette épée est un faux. Ils ne doivent pas savoir que c'est la vraie. Gripsec, s'il vous plaît !» Il entendit quelqu'un descendre précipitamment les marches. Un instant plus tard, la voix tremblante de Drago s'éleva derrière la porte.
« Reculez-vous! Alignez-vous contre le mur du fond! Ne tentez rien ou je vous tue !»
Ils s'exécutèrent. Lorsque la clé tourna dans la serrure, Ron actionna le déluminateur et les lumières disparurent aussitôt dans sa poche, replongeant la cave dans l'obscurité. La porte s'ouvrit à la volée et Malfoy s'avança, pâle et décidé, sa baguette tendue devant lui. Il attrapa le petit gobelin par le bras et sortit à reculons, entraînant Gripsec. À l'instant même où la porte claqua, un craque sonore retentit dans la cave. Ron actionna à nouveau le déluminateur et trois boules de lumière jaillies de sa poche reprirent leur place dans les airs, révélant Dobby, l'elfe de maison, qui venait de transplaner parmi eux.
« Dob !»
Pour l'empêcher de crier, Harry donna un coup sur le bras de Ron, qui sembla terrifié par sa propre erreur. Ils entendirent des bruits de pas au-dessus de leur tête. Drago amenait Gripsec devant Bellatrix. Dobby, écarquillant ses énormes yeux en forme de balle de tennis, tremblait des pieds jusqu'à la pointe de ses oreilles. Il était de retour dans la maison de ses anciens maîtres et manifestement, il était pétrifié.
« Harry Potter ?»
couina-t-il d'une toute petite voix chevrotante.
« Dobby est venu à votre secours. »«
Mais comment as-tu ?» Un cri épouvantable noya ses paroles. Hermione était à nouveau soumise à la torture. Harry en vint tout de suite à l'essentiel.
« Peux-tu transplaner hors de cette cave ?» demanda-t-il à Dobby qui acquiesça d'un signe de tête en faisant battre ses oreilles. « Et peux-tu prendre des humains avec toi ?»
L'elfe hocha à nouveau la tête.
« Très bien, Dobby. Je veux que tu emmènes Luna, Dean et Monsieur Ollivander. Que tu les emmènes. C'est Bill !» C'est Bill et Fleur !» acheva Ron. « À la chaumière, au coquillage, à côté de Dean Worth. »
Pour la troisième fois, l'elfe approuva d'un signe de tête.
« Ensuite, tu reviendras, » poursuivit Harry. « Tu peux faire ça, Dobby ?»«
Bien sûr, Harry Potter, »
murmura le petit elfe. Il se précipita vers M. Ollivander, qui paraissait à peine conscient, prit les mains du fabricant de baguettes dans l'une des siennes, puis tendit son autre main à Luna et à Dean. Mais ni l'un ni l'autre ne bougèrent.
« Harry, nous voulons t'aider. » chuchota Luna.
Nous ne voulons pas te laisser ici, ajouta Dean.
Partez tous les deux. Nous vous retrouverons chez Bill et Fleur. Tandis que Harry parlait, sa cicatrice le brûlait plus que jamais. Et pendant quelques secondes, il baissa les yeux non pas sur M. Ollivander, mais sur un autre homme, aussi vieux et aussi maigre. Celui-ci, cependant, riait d'un air méprisant.
Tuez-moi donc, Voldemort. La mort sera la bienvenue, mais elle ne vous apportera pas ce que vous cherchez. Il y a tant de choses que vous ne comprenez pas. »
Il ressentit la fureur de Voldemort, mais Hermione s'était remise à crier, et il ferma son esprit, revenant à l'horreur de son propre présent.
« Partez !» supplia-t-il en s'adressant à Luna et à Dean. « Partez ! Nous vous rejoindrons après, partez, c'est tout !»
Ils saisirent alors la main tendue de l'elfe. Un nouveau crack retentit, et Dobby, Luna, Dean et Ollivander disparurent.
« Qu'est-ce que c'était ?»
s'écria Lucius Malfoy au-dessus d'eux.
« Vous avez entendu qu'est-ce que c'était que ce bruit dans la cave ?»
Harry et Ron se regardèrent.
« Drago !
Non !
Appelle Cutver ! Envoie-le vérifier ce qui se passe !»
Des pas traversèrent la pièce du dessus, puis ce fut le silence. Harry devina que les personnes présentes dans le salon devaient tendre l'oreille en quête de nouveaux bruits en provenance de la cave.
« Il faut essayer de lui sauter dessus !»
murmura Harry à Ron. Il n'avait pas le choix. Dès que quelqu'un entrerait dans la pièce et constaterait l'absence de trois prisonniers, il serait perdu.
« Laisse les lumières allumées !» ajouta Harry.
Lorsqu'ils entendirent des pas dans l'escalier, ils se plaquèrent contre le mur de chaque côté de la porte.
« Reculez !»
lança la voix de Cutver.
« Écartez-vous ! J'entre !»
La porte s'ouvrit brutalement. Pendant une fraction de seconde, Cutver eut devant les yeux une cave vide, illuminée par les trois soleils miniatures qui flottaient dans les airs. Puis, Harry et Ron se jetèrent sur lui. Ron lui saisit le bras du côté où il tenait sa baguette et le tordit violemment, pendant que Harry lui plaquait une main sur la bouche pour étouffer le son de sa voix. Ils luttèrent ainsi en silence. La baguette de Cutver émettait des étincelles et sa main d'argent se referma sur le cou de Harry.
« Que se passe-t-il, Cutver ?»
lança Lucius Malfoy au-dessus d'eux.
« Rien ?»
répondit Ron dans une imitation acceptable de la voix sifflante de Pettigrew.
« Tout va bien !»
Harry avait du mal à respirer.
« Tu veux me tuer ?»
halta-t-il en essayant de se dégager des doigts métalliques.
« Alors que je t'ai sauvé la vie, tu as une dette envers moi, que te faire ?»
Les doigts d'argent relâchèrent leur étreinte. Harry ne s'y était pas attendu. Abasourdi, il se libéra, gardant sa main plaquée sur la bouche de Cutver. Il vit ses petits yeux de gras s'écarquiller dans une expression de surprise apeurée. Il semblait aussi stupéfait que Harry par ce que sa main venait de faire, par ce minuscule élan de commisération qu'elle avait trahi. Il se débattit alors avec plus de vigueur, comme pour effacer ce moment de faiblesse.
« On va prendre ça !»
murmura Ron en arrachant la baguette que tenait Cutver dans son autre main. Les pupilles de Pettigrew désarmées, impuissants, se dilatèrent de terreur. Son regard s'était détourné du visage de Harry pour se poser sur autre chose. Ses doigts d'argent qui avançaient inexorablement vers sa propre gorge.
« Non !»
Sans prendre le temps de réfléchir, Harry essaya de retenir la main de métal, mais il était impossible de l'arrêter. L'outil d'argent que Voldemort avait donné à son serviteur le plus lâche s'était retourné contre lui à présent, qu'il était désarmé, inutile. Pettigrew payait le prix de son hésitation, de son instant de pitié. Il allait être étranglé sous leurs yeux.
« Non !»
Ron avait également relâché Cutver et joignait ses efforts à ceux de Harry pour essayer d'arracher de sa gorge les doigts implacables, mais c'était inutile. Pettigrew avait déjà le teint bleuâtre.
« Lâche la basque !»
dit Ron en pointant la baguette sur la main d'argent, mais rien ne se produisit. Pettigrew tomba à genoux. Au même moment, Hermione poussa un cri atroce au-dessus de leur tête. Les yeux de Cutver se révulsèrent, le visage violacé. Il eut un dernier spasme et devint inerte. Harry et Ron échangèrent un regard, puis, abandonnant le corps de Cutver sur le sol de la cave, ils montèrent l'escalier quatre à quatre. Ils se retrouvèrent dans le couloir obscur qui menait au salon. Ils s'avancèrent précautionneusement jusqu'à la porte, restée entr'ouverte, et virent nettement Bellatrix, les yeux baissés sur Gripsec, qui tenait l'épée de Griffon d'or entre ses mains, aux longs doigts fins. Hermione, étendue aux pieds de Bellatrix, remuait à peine.
« Alors !» dit Bellatrix à Gripsec. « Cette épée est la vraie ?»
Harry attendit, retenant son souffle, luttant contre la douleur de sa cicatrice.
« Non !»
répondit Gripsec. «
C'est un faux !»« Vous êtes sûr ?»
insista Bellatrix, le souffle court.
« Vraiment sûr ?»« Oui !»
affirma le gobelin. Une expression de soulagement passa sur le visage de Bellatrix. Ses traits se détendirent.
« Très bien !»
dit-elle. D'un petit mouvement de baguette négligent, elle fit apparaître une nouvelle et profonde entaille sur le visage du gobelin qui s'effondra devant elle en poussant un cri. Elle l'écarta d'un coup de pied.
« Maintenant !»
annonça-t-elle d'une voix aux accents triomphants.
« Nous allons appeler le Seigneur des Ténèbres !»
Elle remonta sa manche et toucha la marque de son index. Aussitôt, Harry eut l'impression que sa cicatrice s'était rouverte. La réalité s'évanouit autour de lui. Il était Voldemort. Et sous ses yeux, le sorcier squelettique riait de sa bouche édentée. Il était furieux qu'on l'appelle. Il les avait avertis qu'on ne devait le faire revenir que pour Potter et rien d'autre. S'il s'était trompé.
« Tuez-moi, maintenant !» exigeait le vieil homme. « Vous ne vaincrez pas, vous ne pouvez pas vaincre. Cette baguette ne sera jamais, jamais à vous. »
La fureur de Voldemort explosa. Un éclair de lumière verte illumina la cellule du prisonnier et le vieux corps gracile fut soulevé de son lit raide et dur, puis retomba sans vie. Voldemort retourna devant la fenêtre. Sa colère difficilement contrôlable. S'il n'avait pas une bonne raison de l'appeler, ils en subiraient le châtiment.
« Je pense, dit la voix de Bellatrix, que nous pouvons nous débarrasser de la Sandbourbe. Greybac, hein, prends-la si tu veux. Non !»
Ron avait fait irruption dans le salon. Bellatrix se retourna stupéfaite. Elle pointa sa baguette sur lui.
« Expelliarmus !»
rugit-il en brandissant celle de queue de verre. La baguette de Bellatrix lui sauta des mains et fut rattrapée au vol par Harry qui s'était précipité derrière Ron. Lucius, Narcissa, Drago et Greybac firent volte-face. Harry s'écria « Stupéfix !» et Lucius Malfoy s'effondra devant l'âtre de la cheminée. Des jets de lumière jaillirent des baguettes de Drago, Narcissa et Greybac. Harry plongea par terre, roulant derrière un canapé pour les éviter.
« Arrêtez ou elle meurt !»
Pantelant, Harry jeta un coup d'œil derrière le bord du canapé. Bellatrix soutenait Hermione, apparemment évanouie, et lui appuyait sur la gorge la lame de son petit poignard d'argent.
« Lâchez vos baguettes !»
murmura-t-elle.
« Lâchez-les ou nous allons voir exactement à quel point son sang est immonde !»
Ron s'était figé. Les doigts serrés sur la baguette de queue de verre, Harry se releva, tenant toujours celle de Bellatrix.
« J'ai dit lâchez-les »
hurla-t-elle d'une voix perçante. Elle enfonça un peu plus la lame dans la gorge d'Hermione, et Harry vit le sang perler.
« D'accord »
cria-t-il. Il laissa tomber la baguette de Bellatrix à ses pieds, et Ron fit de même avec celle de queue de verre. Tous deux levèrent les mains à hauteur de leurs épaules.
« Très bien !»
lança Bellatrix avec un regard mauvais.
« Drago, va les ramasser !»« Le Seigneur des Ténèbres arrive, Harry Potter Ta mort approche !»
Harry le savait déjà. Sa cicatrice explosait de douleur et il sentait Voldemort voler dans le ciel, venant de très loin. Il se trouvait à présent au-dessus d'une mer sombre et agitée, et bientôt, il serait arrivé, suffisamment près pour pouvoir transplaner jusqu'à eux. Harry ne voyait pas d'issue.
« Maintenant, si, si !»
dit Bellatrix d'une voix douce, tandis que Drago se hâtait de rapporter les baguettes.
« Je crois que nous devrions à nouveau ligoter ces petits héros. Pendant que Greybac s'occupe de Miss Sandbourbe, je suis sûr que le Seigneur des Ténèbres ne te disputera pas la fille, Greybac, après ce que tu as accompli ce soir. »
Au moment où elle prononçait le dernier mot, quelque chose grinça au-dessus d'eux. Tout le monde leva la tête, juste à temps pour voir trembler le lustre de cristal. Dans un craquement et un cliquetis menaçant, il commença à se détacher du plafond. Bellatrix se trouvait juste au-dessous. Elle lâcha Hermione et se jeta de côté en poussant un cri. Le lustre s'écrasa alors par terre dans une explosion de cristal et de chêne, tombant sur Hermione et le gobelin qui tenait toujours l'épée de Gryffondor serrée entre ses mains. Des éclats de cristal étincelants volèrent en tous sens. Drago se plia en deux, couvrant de ses mains son visage ensanglanté. Pendant que Ron se précipitait pour sortir Hermione de sous les débris, Harry saisit l'occasion. Il sauta par-dessus un fauteuil, arracha les trois baguettes magiques que tenait encore Drago, les pointa toutes ensemble sur Greybac et s'écria « Stupéfix !» Sous la force du triple sortilège, le loup-garou fut projeté en l'air, catapulté jusqu'au plafond, puis retomba sur le sol. Narcissa entraîna Drago à l'abri et Bellatrix se releva d'un bond, ses cheveux voltant autour de sa tête, son poignard d'argent brandi. Mais Narcissa avait dirigé sa baguette vers la porte.
« Dobby !»
hurla-t-elle. Bellatrix elle-même s'immobilisa.
« Toi ? C'est toi qui as fait tomber le lustre ?»
s'exclama Narcissa. L'elfe minuscule s'avança dans la pièce en trottinant, un doigt tremblant tendu vers son ancienne maîtresse.
« Vous n'avez pas le droit de faire du mal à Harry Potter !»
couina-t-il.
« Tue-le, Sissi, tue-le !»
s'écria Bellatrix. Mais il y eut un nouveau craque sonore, et la baguette de Narcissa vola à son tour dans les airs, atterrissant à l'autre bout du salon.
« Espèce de sale petit singe !»
brailla Bellatrix.
« Comment oses-tu désarmer une sorcière ? Comment oses-tu défier tes maîtres ?»
« Dobby n'a pas de maître, »
répliqua l'elfe d'une voix aiguë.
« Dobby est un elfe libre et Dobby est venu sauver Harry Potter et ses amis. »
Harry éprouva une douleur aveuglante dans sa cicatrice. Il avait la vague conscience que, dans quelques instants, quelques secondes, Voldemort les aurait rejoints. « Ron, attrape et file » cria-t-il en lui jetant l'une des baguettes. Il se pencha pour dégager Gripsec du lustre écrasé, hissant sur son épaule le gobelin qui gémissait, toujours accroché à l'épée. Harry saisit la main de Dobby et tourna sur place pour transplaner. Lorsqu'il plongea dans l'obscurité, il eut une dernière vision fugitive du salon. Les silhouettes pâles et figées de Narcissa et de Drago, la tache rousse que formaient les cheveux de Ron et une traînée argentée qui traversa les airs quand Bellatrix lança son poignard vers l'endroit d'où Harry disparaissait.
« Chez Bill et Fleur, la chaumière au coquillage, chez Bill et Fleur !»
Il avait plongé dans l'inconnu et ne pouvait que répéter le nom de sa destination, en espérant que ce serait suffisant pour l'y amener. La douleur de sa cicatrice le transperçait et le poids du gobelin était lourd à porter. Il sentait la lame de l'épée de Gryffondor rebondir contre son dos. La main de Dobby tressaillait dans la sienne. Il se demanda si ce n'était pas l'elfe qui essayait de reprendre l'initiative, de les attirer dans la bonne direction. Il serra les doigts pour lui faire comprendre qu'il serait ravi de se laisser conduire. Et bientôt, ils touchèrent la terre ferme, respirant un air salé. Harry tomba à genoux, lâcha la main de Dobby et s'efforça de poser doucement Gripsec sur le sol. « Ça va ? » demanda-t-il en voyant le gobelin remuer. Mais Gripsec se contenta de pousser un gémissement. Harry scruta l'obscurité. Il semblait y avoir un cottage un peu plus loin, sous le vaste ciel étoilé, et il crut voir quelqu'un bouger à proximité.
« Dobby, c'est la chaumière au coquillage ?»
murmura-t-il, serrant entre ses doigts les deux baguettes qu'il avait emportées de chez les Malfoy, prêts à combattre en cas de besoin.
Sommes-nous arrivés au bon endroit, Dobby ?
Il regarda à côté de lui. Le petit elfe se tenait debout, tout près.
Dobby ?
L'elfe vacilla légèrement, les étoiles se reflétant dans ses grands yeux brillants. Ensemble, Harry et lui baissèrent leurs regards vers le manche argenté du poignard planté dans sa poitrine haletante.
« Dobby, non !
Au secours !» hurla Harry en direction du cottage et des silhouettes qu'il voyait bouger.
« Au secours !»
Il ne savait pas et ne se souciait pas de savoir s'il s'agissait de sorciers ou de moldus, d'amis ou d'ennemis. Tout ce qu'il voyait, c'était qu'une tache sombre s'élargissait sur la poitrine de Dobby et que l'elfe le regardait suppliant, tendait vers lui ses bras minces. Harry le rattrapa au moment où il tombait et l'allongea de côté dans l'herbe fraîche.
« Non, Dobby, non, ne meurs pas, ne meurs pas !»
Les yeux de l'elfe se posèrent sur lui et ses lèvres tremblèrent sous l'effort qu'il dut faire pour prononcer ces derniers mots.
« Harry, Harry Potter !»
Alors, avec un petit frémissement, l'elfe s'immobilisa et ses yeux ne furent plus que deux grandes sphères vitreuses dans lesquelles scintillait la lueur des étoiles qu'il ne pouvait plus voir.